Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes en RDC. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler de la guerre à l'est du pays, les conflits armés à l'est du pays, quel est l'impact sur l'environnement et sur la santé. Professeur Nicolas Choukou, docteur en sciences de l'environnement. Et notre invité, il est en ligne depuis le Canada. Et bonjour, professeur.
Bonjour. Comment vous allez?
Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission. On aura également tout à l'heure Dr Anissé Kipassa, expert en santé publique, qui est déjà en ligne depuis la ville de Kikwit. Dr Anissé, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous les auditeurs de Okapi Service.
Bienvenue dans cette émission. Vous voulez réagir, participer à ce programme de la vie au quotidien. Le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Violation des droits de l'homme dans les territoires occupés par les rebelles du M23. On en parle dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05. Heure de Kinshasa. Hippolyte Kapenga assure la mise en onde de Tati Mapoukou et est à la coordination et assure la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. La guerre à l'Est a des effets néfastes considérables sur l'environnement, selon les experts en évaluation environnementale. Outre les pertes en vies humaines et les déplacements massifs des populations que cette guerre occasionne, disons que ce conflit a un impact majeur sur les écosystèmes. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Dans les rues de Goma, on continue à ramasser des corps en état de décomposition. Les besoins en eau potable et en ressources se font de plus en plus sentir, ce qui fait craindre une catastrophe humanitaire. Alors, quel est l'impact de la guerre sur l'environnement et sur la santé? Voilà, nous allons échanger là-dessus avec nos invités. Professeur Nicolas Choukou, vous êtes docteur en sciences de l'environnement, vous intervenez depuis le Canada. Dites-nous, quel est l'impact de la guerre sur l'environnement? Professeur Nicolas Choukou.
Je vais parler des impacts directement, de vous présenter c'est quoi la RDC et c'est pourquoi ces guerres et les protestants. Et la RDC est un pays à géologie complexe situé sur une partie est, ce qu'on appelle le rift est africain, les Grands. Et en étant dans le pays de Graben, c'est que vous devez savoir que le Graben de l'Est traverse le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et... Qu'est-ce que vous devez savoir? Que la République démocratique du Congo est un pays tout à fait riche. Potentiel minier, la RDC a 70 000 tonnes. La RDC a 70% des réserves mondiales importantes. La RDC est une ressource qui est estimé à 24 000 milliards de dollars. un pays extrêmement. Et la RDC, des ressources forestières, des écosystèmes forestiers, des plus grandes forêts tropicales du monde. 1 280 000 km² de superficie.
Oui, professeur, la communication n'est pas très très bonne. Je vais vous demander peut-être de bouger un tout petit peu, dans l'espoir que ça peut s'améliorer. Oui, ça, maintenant ça va, allez-y.
Ok. Je disais, la RDC, du point de vue potentiel minier, 170 000 tonnes de cobalt, 75% de la production mondiale, 60% des réserves mondiales de coltan. Et c'est ça la RDC. 24 000 milliards de dollars américains du point de vue potentiel minier global, valeur estimée non exploitée. Un pays riche. 1 280 000 km² de la superficie forestière, des plus grandes forêts tropicales du monde. Mais vous voyez, ce sont des ressources qui font que la RDC devient théâtre de conflits. Environ 100 000 mégawatts de potentiel estimé de l'hydroélectricité, des énergies renouvelables, n'en parlons pas. Mais pourquoi la guerre? Pourquoi ces enjeux de la guerre? C'est tout simplement, les belligérants veulent contrôler les ressources naturelles. À ce fait, ils exploitent d'une façon illégale des minerais. Ils aggravent l'instabilité, la pression démographique. Ça, c'est parce que nous avons ces richesses. Mais les causes vraiment de la guerre, c'est quoi? Quand vous regardez très bien, un pays est faible. Les autorités, à un moment donné, la corruption incalculable, l'exploitation illégale des ressources naturelles. Mais l'ingérence des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et plusieurs échecs des missions de la paix internationale et corps politique sont des causes de la guerre. Mais on peut se poser la question, qui sont acteurs de ces conflits armés? À la République démocratique du Congo. C'est clair. C'est
les multinationales qui veulent exploiter les richesses de la RDC. Oui, ça, on le sait déjà, professeur. Maintenant, ces conflits armés ont quel genre d'impact sur l'écosystème environnemental?
Du point de vue des écosystèmes environnementaux, il y a la dégradation environnementale. Les conflits à Goma, comme vous le savez, il y a dégradation des ressources forestières. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le plan sanitaire, on est en train de creuser des tombes où les gens meurent à côté des hôpitaux. Il y a la décomposition des corps. Et puis ça,
les hôpitaux sont débordés.
Des sorts arabes. Nous avons la déforestation, les opérations militaires. Font que déplacer la population. Et puis, cette population déplacée, ils doivent continuer à manger. Et pour manger, ils doivent utiliser les ressources forestières, les bois pour couper les bois et faire fabriquer les charbons de bois ou cuisiner. Et c'est la perte des écosystèmes. C'est la dégradation des ressources forestière, les déplacements des êtres vivants macroscopiques ou microscopiques, les animaux qui se déplacent. Il y a la pollution au niveau du lac Kivu. Alors, ce conflit entraîne des conséquences néfastes sur le plan des écosystèmes. Les parcs de Virunga, là, devient comme un théâtre. Il y a le phénomène de braconnage au niveau des parcs, mais ça c'est des impacts incommensurables. Il faut savoir que quand les belligérants, surtout les rebelles M23 qui sont en train de terroriser les pays, ils viennent, ils font des mines antipersonnelles, ils lancent les armes, tout ça c'est sur les sols, ils perturbent les sols. Et du point de vue économique, vous devez savoir que si les différents commerces qui se faisaient en République démocratique du Congo entre des pays voisins. Il y a stagnation et régression économique. Mais la population vit dans des conditions difficiles, de perturbation de leur commerce. Mais vous devez savoir aussi, cette zone est une zone touristique. Mais aujourd'hui, la zone touristique de Goma, et aujourd'hui près du parc national de Virunga, subit aussi des perturbations dans le tourisme. C'est une source de revenus. Cette source de revenus en République démocratique du Congo est diminuée. Comme vous pouvez le remarquer, la guerre là de l'Est fait déplacer la population. Oui. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 500 000 de populations.
Personnes déplacées.
Déplacées. Toute cette population se déplace où? Dans les écosystèmes forestiers. Et quand ils se déplacent, ils font la pression sur les sols. Ils font la pression sur la forêt. Alors, cette population aussi, quand vous les regardez, il y a des camps de réfugiés où il y a la pression. Ces camps de réfugiés, leur maison de fortune, c'est sur quoi? C'est sur les sols arables, sur les sols cultivables. Il y a réduction de ces sols cultivables. Réduction de ces sols arables. Beaucoup de perturbations. Mais ces belligérants-là, les rebelles, ils viennent creuser des ressources. En creusant les ressources, parce que nous savons qu'ils viennent voler les ressources, ils viennent vraiment piller. Pillage systématique. Donc, ils vont creuser.
Bien, professeur.
Oui, ils perturbent les sols.
Tout à fait.
Ils vont récupérer les minerais. Il y a le phénomène des glissements de terrain, des éboulements, qu'on n'en parlait pas. Il y a ces phénomènes-là, ils sont en train de perturber l'équilibre éco-climatique. Et que l'effet déjà de couper des forêts par le bois de chauffage, par des autres phénomènes, font augmenter la température du milieu. Et quand nous connaissons que quand la température augmente, cela se favorise le réchauffement climatique. Donc, ces phénomènes de réchauffement climatique que nous connaissons à travers le monde, les guerres sont aussi
professeur,
à la base.
D'accord. Voilà, les conséquences
sont perturbées. Nous avons les
professeur Soukou.
Aussi
professeur Soukou.
Parce que nous connaissons que la forêt.
Professeur Soukou.
Vous me suivez là.
Oui, évidemment.
La forêt,
professeur Soukou, un instant.
La végétation envoie à l'atmosphère et aussi les ETP qui sont les évapotranspiration et qu'il y a les effets de transpiration qui peuvent aussi occasionner la précipitation.
Oui, professeur Soukou.
On est en train de menacer les écosystèmes forestiers.
Oui.
On est en train aussi
allô,
de
professeur.
Déséquilibrer les rythmes de la précipitation atmosphérique de cette partie, ou pourquoi pas de la République démocratique du Congo, ou dans le cycle global de la circulation atmosphérique.
Oui.
Donc, ce phénomène a des conséquences majeures. Mais je m'en vais aussi du point de vue agricole, des activités agricoles vitales pour l'économie de la RDC sont souvent
professeur Soukou
interrompues et entraînant les gens à une crise alimentaire parce que vous le savez, je parlais de l'énergie. Quand les rebelles sont arrivés, ils coupent l'électricité. La population de Goma sont restées sans électricité. Les produits alimentaires quittaristes, on doit les jeter où? Parce qu'il ne faut pas, ils ne mangent pas les produits pourris, ils les jettent sur les écosystèmes, ils les jettent sur leur sol. Il y a toujours des impacts. Les impacts sociaux aussi sont très, très, très importants là-bas. Il y a parce que à Goma, comme dans les autres parties de l'Est.
D'accord, professeur.
La guerre entraîne un impact social.
Professeur, on retient qu'il y a beaucoup.
Le traumatisme et la dégradation de la cohésion
Professeur Choukou, les conséquences sont néfastes sur les écosystèmes environnementaux. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons accueillir les auditeurs. Serge Mafouta nous appelle des Guémena et Justin Debounia. Et ensuite, on va donner la parole au docteur Anissé Kipassa, qui est expert en santé publique. Serge Mafouta, vous êtes à Guémena. Bonjour. Serge, bonjour. Allô? Allô? Bien, on va retrouver Serge Mafouta tout à l'heure depuis la ville des Guémena. Nous avons également Justin Debounia. Bonjour, Justin.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour au professeur.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'impact de la guerre sur l'environnement et la santé?
Merci Monsieur Jody. Oui, vu la situation actuelle de la RDC, en tout cas c'est déplorable. Parce que vu notre environnement est pollué, des corps, voire même à Goma, ici en Djougou, partout ailleurs sur les tandis du territoire national. Je demande que, est-ce que nous avons un ministre de l'environnement dans ces pays? Et si oui, quel est son rôle, monsieur le professeur? Et c'est vrai, la RDC, on dit souvent, c'est un pays solution. Mais moi, je le décris que non, c'est un pays problème. Vu l'environnement, nous avons des forêts équatoriales. Nous avons en tout cas toutes les potentialités dans ces pays. Mais rien ne nous sert dans ces pays. Alors moi, je me demande sur la situation sécuritaire à Goma. Et jusqu'à présent, il y a aussi des corps qui sont retrouvés. Et maintenant, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire au ministre que pour cet environnement qui est pollué alors que la population continue toujours à vivre dans ce même climat et nous ne connaissons pas la fin même de cette guerre? Sinon, merci monsieur Jody et bonne journée.
Merci Justin Debounia. Serge Mafouta de Guémena, vous êtes là? Serge, vous êtes là? Bien, Serge Mafouta n'est pas en ligne. Docteur Anissé Kipassa, vous êtes expert en santé publique. Vous intervenez depuis la ville de Kikwit. Bonjour.
Bonjour Jody. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous capte 5 sur 5, docteur Anissé. Alors, dites-nous, quels sont les risques sanitaires après ce conflit, cette guerre à l'Est, à Goma particulièrement? On déplore plus de 3 000... Beaucoup de morts, et puis il y a encore des cadavres qui jonchent les rues, et il n'y a pas assez d'eau, les gens doivent aller s'approvisionner au niveau du lac, etc. Professeur, quels sont les risques sur le plan de la santé?
Merci Jody. J'ai suivi le professeur Choukou tout à l'heure là. Je me résume en disant ceci. L'impact de la guerre, l'impact, comme vous l'avez demandé, vous avez énoncé là, il y a l'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé. Je commence par l'impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement, l'impact de la guerre actuellement, il y a l'impact à court terme et à long terme. À court terme, actuellement, dans les milieux de Goma, parce que la guerre, c'est un phénomène inattendu. Les gens savaient que la guerre venait. Mais comme nous le faisons en épidémiologie, et chaque fois que nous avons un problème d'épidémie, on prépare la riposte. Mais ici, c'est un phénomène tout à fait artificiel. Les gens ont créé la guerre. Et la guerre a un impact à court terme. Il y a, sur le plan de l'environnement, il y a l'anarchie sur tout ce qui concerne l'assainissement et l'hygiène. Dès que la guerre est entrée, tous les services de base pour la survie de la population à Goma étaient déréglés. Les gens qui travaillent à la SNEL, à la régie des eaux, même dans les hôpitaux, c'était sauf qui peut. Chacun devait défendre sa peau. En ce moment-là, il y avait une anarchie et un dérèglement sur le plan de l'assainissement et de l'hygiène publique. Donc, ça, c'est à court terme. Actuellement, peut-être dès que il y a eu un temps de repos, l'une des premières choses, c'était de rétablir les services publics de l'État, l'eau, l'électricité et les autres services de base. Et les gens en ont souffert. Ça, c'est sur le plan environnemental, à court terme. À long terme, on a utilisé des armes. Ces armes-là sont des produits d'autres à base chimique ou des toxiques. Sachez que il y aura un effet sur l'environnement, sur l'agriculture dans les jours qui viennent, parce que il y aura certainement des mines par-ci par-là et ça constitue un danger permanent pour les agriculteurs, pour les gens qui vont dans les champs. Nous savons que tout autour de Goma, les gens vivent de la c'est une culture vivrière. Les gens doivent aller dans les champs pour produire, pour vivre. Or, avec l'effet de la guerre, les gens ont déposé certainement. Il y a des bombes qui ont éclaté, qui ont abîmé l'écosystème. Donc, il y aura un impact sérieux. Et cela va se manifester sur le plan de la santé à long terme. Vous verrez des problèmes de malnutrition qu'on n'a pas vu à Goma depuis des années et des années.
Oui.
Parce que tout est devenu un problème sérieux. Je prends sur le plan sanitaire. La gestion d'un phénomène, je dis un phénomène naturel. Si c'était une épidémie, nous, les experts en santé publique, nos équipes des experts en santé publique, de médecins, les agents de santé, on est préparé à une riposte devant un phénomène naturel, une épidémie par exemple. Mais la guerre surprend les gens. Ça signifie qu'il n'y avait pas d'équipe préparée pour prendre les effets sanitaires de cette guerre. Par exemple, les hôpitaux, les centres de santé sont dépassés. Et je dis, nous sommes à Goma, où avant que la guerre n'arrive à Goma, il y avait déjà le problème posé par des déplacés de guerre. Et quand il y a le problème des déplacés de guerre, il y a la promiscuité. Plusieurs fois, vous avez entendu les gens parler du péril fécal. À Goma, tout autour de Goma, dans les endroits où les gens sont assemblés, les organisations
docteur Anissé, des Nations Unies. Docteur Anissé, on parle déjà de plus de 3000 morts, les hôpitaux, les morgues sont débordées, on ne sait plus où garder ses corps, et tout ça c'est des risques énormes.
Oui, je l'ai dit. Les hôpitaux, la capacité des hôpitaux à gérer les victimes de la guerre, que ce soit les blessés, que ce soit les cadavres, ils sont dépassés, ils sont vraiment dépassés. Et les blessés, c'est difficile, c'est triste pour un médecin de voir quelqu'un mourir là où il pouvait intervenir. Les médecins sont psychologiquement touchés et les personnels sont dépassés. Parce que je ne peux pas accepter d'être impuissant devant quelqu'un qui saigne ou la banque de sang ne fonctionne plus, parce qu'on n'aura même plus de donneurs à ce moment-là. Regardez, dès qu'il y a eu la guerre quelque part en Israël ou en Palestine, il y a eu des milliers, même en Ukraine, des milliers de gens, des volontaires qui sont allés pour donner du sang. Or, la situation actuelle à Goma, je ne suis pas sûr que la banque de sang fonctionne. Et le médecin sont incapables, les infirmiers incapables de sauver des vies qui ne devaient pas mourir parce qu'il manque tout. Je dis ceci, ça c'est sur le plan, disons à court terme, mais il y a aussi le phénomène que je venais de crier tout à l'heure là, les lits sur lesquels la guerre arrive, il y avait d'abord des déplacés sur le plan de l'épidémiologie, vous avez entendu parler, il y a des risques de choléra, il y a des risques de telle autre maladie liée à l'eau. Mmh. Donc, nous sommes à Goma, ça devient des flambées de choléra par ici, de fièvre typhoïde par là, parce que sur le plan environnemental, les services de base ne fonctionnaient plus.
Bien, un instant, docteur Anissé, on va accueillir Serge de Guémena et Mina Mwanda de Bukavu. Serge, bonjour. Serge, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'impact de la guerre sur l'environnement et la santé? Allô, Serge?
Voilà, je voudrais commencer par le secteur de la santé.
Oui.
Où, à Goma, quand Herbert a pris la ville, il y a eu problème de courant. Qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, après 4-3 jours de guerre, les corps sont en train d'être enterrés. Je me demande si les morgues de Goma fonctionnaient avec le courant pour que ce corps-là puisse être conservé d'une bonne manière et que l'inhumation puisse passer d'une bonne manière. Nous tous, on sait que quand il y a une guerre dans un milieu X, il y a parfois les systèmes de fausses collines que les rebelles créent. On vit d'enterrer les corps des victimes et des consorts. On vit de se mettre à l'abri des dangers de l'enfer qui peut mener la communauté internationale ou la CPI. Alors, dans le secteur de la santé, il était urgent en ce moment que les ministères puissent prendre des dispositions pour permettre à sauver la population de Goma. Parce qu'on risquait dans le cas des épidémies, de choléra et d'autres maladies dans la ville de Goma après cette crise. Mais aussi, cette guerre, si une solution urgente ne parvient pas à être donnée, les enfants qui sont à Goma vont entrer dans le cas de retard de calendrier vaccinal. Il y a certains enfants qui devraient normalement être vaccinés, mais aujourd'hui, ils ne vont être vaccinés tout simplement parce que la ville de Goma est en guerre. Parlant du côté de l'environnement, vous savez, chers journalistes, auditeurs de la radio Capi, l'environnement joue un rôle important pour un milieu X ou Y. Aujourd'hui, il y a des parcs, il y a des milieux de aires protégées, si je puis dire, mais ces aires-là vont être maintenant menacées, il y a des cas de braconnage, ainsi de suite. Tout ça, ça joue sur la vie environnementale de la ville de Goma.
D'accord.
Donc, il est impérieux au ministre de l'Environnement de chercher également à trouver une solution par rapport à cette situation.
Merci beaucoup, Serge de Guémena. Et Eminent Mwanda, vous êtes à Bukavu. Bonjour. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Monsieur Jody, excusez-moi, merci.
Oui, bien
sûr. Merci de m'associer à ce débat. Nous continuons à partager nos compassions à toutes les familles victimes et nous espérons que le gouvernement cherchera à trouver une solution rapide pour couper court à ces maux que connaissent nos frères. Mmh. Les conséquences, comme vous avez posé dans votre question, sont énormes. Nous connaissons une guerre d'un pays ou des pays sous-développés. Ce qui est différent de ces guerres que nous voyons en Ukraine et qu'on sort où tous les services sont bien organisés. Si je n'aimerais pas parler, comme vous venez de parler de le docteur, moi je dirais que cette guerre, on pouvait l'entrevoir ou la voir venir dès la première prise du premier territoire de notre pays. On pouvait déjà se dire que vu la détermination de ces gens-là, ils pouvaient arriver jusqu'à Goma. D'où la préparation en amont de tous les services. D'où je vais parler peut-être de problèmes de manque de moyens. Manque de moyens, ce qui fait que nous connaissons tout ce que nous connaissons. Mais les conséquences, comme je l'ai dit, sont énormes. Déjà qu'il y a plus de 2000 morts. Les gens qui pourrissent.
Plus de 3000.
À l'air libre, comme ça.
On parle déjà d'être plus de 3000.
Plus de 3000 morts, oui. Merci beaucoup. Quand les gens pourrissent, et que ceux qui sont encore vivants sont en train de respirer cette air-là polluée. Des conséquences énormes à long terme nous attendent. Vous allez voir que je ne suis pas prophète de malheur. Il y aura de nouvelles maladies sans nom que les experts viendront trouver ici chez nous et qu'ils seront obligés de baptiser, comme on a baptisé les dernières maladies ici trouvées au Congo.
Et Jeannot, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'il faut faire? L'aéroport est fermé, il n'y a pas de couloir humanitaire, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte?
Ok. Merci pour la question. J'avais écrit ça dans cette émission d'hier nuit. J'ai dit ceci. Moi, je pense que il faut peut-être, excusez-moi l'expression, il faut peut-être arriver à négocier avec le plus fort sur le terrain. Je ne sais pas qui sont plus forts sur le terrain. Ici, on ne veut pas entrer dans ce piège qu'on nous dit de ne pas dire la vérité. Négocier avec le plus fort sur le terrain pour la survie de ceux qui sont encore vivants sur le terrain. Parce que ceux qui connaissent vraiment et qui parlent du doigt les conséquences de ces guerres, c'est ceux qui sont sur place. Négocier, donner-leur ce qu'ils veulent, négocier avec eux pour que l'aéroport soit dégagé, afin qu'il y ait un couloir humanitaire pour que nos frères encore vivants puissent continuer à vivre leur vie. Il y en a qui meurent dans les eaux du lac. Ces eaux sont encore consommées par ceux qui sont vivants. Imaginez un peu la catastrophe qui nous attend. Qu'on puisse quand même, que le gouvernement arrive à négocier avec ceux qui sont forts sur le terrain. Je ne sais pas si c'est nous ou si c'est les autres que nous négocions avec ceux qui sont le plus fort pour que nous puissions arriver à respirer. Ou sinon, ça ne va pas. Pendant qu'on est en train de faire des réunions à Kinshasa et qu'on sort, mais il y en a qui sont continuent à mourir. Alors que le gouvernement nous aide à pouvoir couper court à ces saignements que nous connaissons.
Merci Jeannot. Merci Jeannot à l'OMWE depuis Kolwezi. Professeur Nicolas Choukou, vous avez la parole.
Oui, les éléments que le collègue vient d'évoquer, c'est des éléments tout à fait indispensables. Mais l'autre auditeur pose la question de savoir quel est le rôle du ministre. Est-ce que nous avons un ministre de l'Environnement en République démocratique du Congo? Mais oui, le rôle du ministre, c'est de mettre des normes, de mettre des lois et puis appliquer la gouvernance. Je crois que pour le moment, le ministre est plus au dépourvu parce que c'est la guerre. C'est vrai que tout le monde, tout Congolais devait savoir que la guerre ici était imminente. Mais les conséquences sont là. Mais que faut-il faire? La première des solutions, je crois que le collègue vient de dire, hein, il faut urgemment ouvrir un coup, demander l'ouverture de couloirs humanitaires parce que des couloirs pour permettre l'aide de la population qui existent encore, qui vivent encore à Goma. Sinon, nous risquons de perdre Goma. Et en plus, ces gens avancent. Hein. Ils avancent maintenant vers Bukavu. Là. Donc, on ne se vole pas la face. Hein. Mais alors, en allant, nous risquons de voir encore cette catastrophe. Et en plus, il faudrait que les pays qui gouvernent aujourd'hui chercher à trouver des solutions parce que les conséquences sont tout à fait énormes. On dit là les morgues, il n'y a pas l'électricité, nous le savons qu'il n'y en avait pas. C'est une catastrophe énorme. Même aujourd'hui, quand nous allons rentrer vraiment vers une certaine des déforestation, et dès qu'il y a une forte déforestation, on aura quoi? On aura beaucoup de déséquilibres. Et puis, aujourd'hui encore, nous pouvons constater dans les conséquences plus lointaines de ces conflits, les traumatismes qui doit arriver, hein, parce que les gens qui vivent la guerre, et ils vont commencer à vivre avec ces phénomènes. Ils risquent de tout perdre. Mais comme disait le docteur Akikwit, c'est vrai que les conflits armés engendrent des impacts direct ou indirect. Sur le plan direct des conflits armés, si je m'en vais dans la destruction des il y a la destruction des infrastructures et des biens que nous voyons à Goma. Les routes sont perturbées, les ponts sont cassés, les hôpitaux et des écoles paralysées. Hein. Ça, tout le monde le sait. Et en plus, nous comprenons que les bombardements qui se passent à Goma ou dans les entourages endommagent les habitations et obligent les habitants à fuir. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Détérioration des réseaux électriques et approvisionnement de l'eau. C'est encore plus grave quand ils sont en train de boire, de consommer de l'eau ou là où on jette des cadavres. Et donc, les gens sont en train déjà de consommer cette maladie parce que on ne peut pas manger un cadavre. Là, vous consommez le cadavre décomposé. Dans les jours à venir, on va avoir des conséquences. Même le poisson que nous allons commencer dans la ville. C'est des façons qu'on va pêcher, c'est des façons qu'on mange quoi, les cadavres humains. Hein. Et c'est tout à fait vrai que la perte des vies humaines et le déplacement de la population à Goma comme dans l'entourage, c'est très grave.
C'est très grave.
Une blessure massive.
Oui. Professeur, on va accueillir Éminent Mwanda qui est à Bukavu. Éminent, bonjour.
Bonjour à tout le monde au studio.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'impact de la guerre sur l'environnement et la santé?
Vraiment, la guerre étant la misère de toutes les misères, étant la mère de toutes les misères du monde, nous savons tout bien que la guerre impacte négativement l'environnement. Parce que les conséquences environnementales doivent s'observer via la guerre, le bombardement menace toujours l'environnement et l'écosystème est dégradé. C'est pour cela que je vous dis, monsieur Jody. Est-ce que je peux d'abord poser la question au gouvernement? Est-ce que votre gouvernement est en train d'évaluer les conséquences de cette guerre ici, comme vous êtes en train de souligner là-bas? Parce que nous sommes ici à Bukavu, sachant que Bukavu est menacé, les gens qui passent actuellement à nous, à Soudan, ils n'ont même pas de la tête de ce défi qui est à Goma, parce que selon les informations que nous avons, que Goma est vraiment, on peut dire que ces gens-là sont otages. Donc, ceux qui sont à Goma devraient d'abord bénéficier d'un environnement sain, afin d'espérer à une réparation équitable dans les États-Unis. Et c'est par là que d'abord le gouvernement doit commencer à travailler. Parce qu'il faut mettre le service de Goma dans un bon environnement et travailler beaucoup plus leur mentalité, sachant que ils ont leur mentalité, il y a des bénéfices au-delà de perdre le bien et au-delà de perdre les personnes humaines. Il y a aussi cette suppose-là qui va toujours dans la direction de la machine. C'est pour cela, sur le plan environnemental, nous devons beaucoup plus protéger l'environnement parce que cet environnement-là de Goma doit toujours impacter la République démocratique du Congo. Là, il y a un pays qui est déjà menacé. Je pense que c'est le Congo. Qui actuellement est un patrimoine commun de l'humanité de l'UNESCO. Mais je crois qu'avec la guerre ne peut pas épargner ce parc avec d'autres menaces. Les sont là n'ont pas qu'une norme, ne sont pas une norme internationale, parce que ceux-là qui sont incapables de respecter même les droits internationaux humanitaires ne seront pas même à respecter le droit de l'environnement.
Voilà. Merci Amina Mwanda de Bukavu qui nous dit que même le parc du Virunga est menacé. Quelqu'un a parlé aussi des risques de braconnage, etc. Sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire, il y a des risques. Docteur Anissé qui passe ça. Un mot là-dessus?
Oui, Jody. J'étais en train de parler des effets de la guerre actuellement, par exemple à Goma, sur la santé. J'ai vu l'approche, le professeur l'a dit tout à l'heure là, un élément que je voulais ajouter c'est la psychose. Sachez que la psychose de la guerre, toutes ces détonations, ça a eu un impact très sérieux sur la santé de la communauté. Vous aurez, si vous allez dans des hôpitaux, vous verrez des gens, des femmes qui ont avorté à cause de la psychose de la guerre. Vous verrez des enfants qui ne savent même pas dormir, même les adultes, à cause de toutes ces détonations-là. Et les grands problèmes qui se posent à Goma actuellement, j'ai entendu, on a parlé d'ouvrir le couloir. En fait, c'est la gestion des catastrophes. Si vous regardez sur le terrain, il y a des gens qui ont dit les hôpitaux sont débordés. Qui gère les blessés? Qui ramasse les morts? Qui ramasse les blessés? Pendant les guerres traditionnelles, vous avez les services de la Croix-Rouge et les Croissants-Rouges qui accompagnent souvent les belligérants, mais ils les font sous le respect strict de tout ce que dit la Convention de Genève. Si aujourd'hui vous dites, docteur Kipasa, vous êtes appelé dans l'équipe des urgences, et c'est une façon superficielle de voir les choses en mettant l'accent sur le ministre de l'Environnement. Le problème qui se pose à Goma actuellement, c'est la gestion d'une catastrophe qui n'est pas naturelle, c'est une catastrophe artificielle, créée par des gens avec cette histoire de la guerre. est-ce que le ministère, notre ministère, il a une cellule des urgences? On pouvait, Otia pouvait descendre sur le terrain, mais qui protégerait les gens, les médecins, les infirmiers qui descendront sur le terrain pour gérer les victimes de cette catastrophe artificielle? Avec une épidémie, c'est facile. L'ennemi, c'est exactement la même chose. La guerre ici et les épidémies. Pendant les épidémies, l'ennemi, c'est le virus. Mais ici, l'ennemi est connu et l'ennemi a des intentions claires. Et maintenant, le problème, c'est la gestion des catastrophes. On parle, ce qu'on amène à l'hôpital, généralement, ce sont les aides. C'est pas la Croix-Rouge, les gens de la Croix-Rouge qui connaissent comment faire le ramassage, comment ensevelir, comment enterrer, comment organiser. C'est comme ça, ce service étant bloqué, tout est de anarchie.
Docteur Anissé, si quelqu'un parlait tout à l'heure des fosses communes qui peuvent être, qui peuvent recevoir tous ces corps-là, mais même les fosses communes, là, représentent toujours un danger.
Oui, dans la mesure où même les fosses communes, il faut que ce soit des ensevelissements avec beaucoup de sécurité. Vous savez que dans certains milieux, évidemment, nous, notre culture ne le permet pas. Les gens qui veulent pas qu'il y ait des fosses communes, parce que plus tard il y aura des enquêtes, les gens qui vont enterrer sont aussi à risque. Donc, ne vous en faites pas. Dès qu'on découvre qu'il y a une fosse commune quelque part, ils vont aller chercher à faire disparaître les traces de cette fosse commune. Donc, il y a risque. Et pour ceux qui prennent en charge ou ceux qui sont chargés de prendre en charge. C'est pourquoi nous disons, le grand problème qui se pose, que ce soit à Goma ou partout où il y a la guerre, nous étions d'abord confrontés avec la gestion des déplacés des guerres. C'était un grand problème. Vient s'ajouter maintenant les victimes de la guerre. On avait des problèmes à gérer les déplacés de guerre avec tous ces centres-là. Sur le plan épidémiologique, il y a beaucoup de problèmes, même si aujourd'hui les couloirs doivent être ouverts. Cela demande une organisation, comme on le fait avec au ministère de la Santé publique. C'est un problème multidisciplinaire. Les ministères de l'Environnement, les ministères de la Santé, les ministères des Affaires sociales, parce que il faut prendre en charge sur le plan non seulement matériel et psychologique toutes les victimes de la guerre. À Goma, le péril est non seulement sur le plan infectieux, mais il y a aussi la massification de la pauvreté qui va créer des dégâts à long terme. On est à Goma, on n'a pas eu de problèmes de malnutrition de façon aiguë, mais dans les jours qui viennent, il y aura des sérieux problèmes et il faudra prendre ça en amont. Il faudra déjà se préparer pour ça. Donc ça demande l'impact, comme vous avez dit, négatif de cette catastrophe, je dis bien artificielle. Si vous m'appelez, vous dites descendez à Goma, moi je suis accro, je suis habitué dans les catastrophes naturelles. Si c'est une épidémie de choléra, je descendrai. Mais seulement, il faudra revenir à l'organisation. D'ailleurs, à Goma, la division provinciale de la santé a ce que le ministère de la Santé avait demandé à tout le monde, le plan de contingence. Il existe un plan de contingence à Goma, je sais la DPS doit avoir ça, à Bukavu, mais seulement, il faut leur donner le moyen pour que les gens prennent, je sais, c'est un risque, le temps d'aller pour gérer les blessés, et on ne va pas les gérer tous dans... Les chirurgiens, pour la chirurgie de guerre, il y en a dans l'armée, mais seulement, il faudra absolument qu'on nous aide à relancer, à rendre fonctionnel le plan de contingence qui existe déjà,
oui.
Que ce soit à Goma ou à Sake ou partout là.
D'accord. On va accueillir Jérôme de Lubumbashi. Nous parlons de l'impact de la guerre sur l'environnement et sur la santé. Jérôme, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Merci pour la parole.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jérôme?
On parle de l'impact ou les conséquences de la guerre. mes chers journalistes, je dis bonjour à tout le monde d'abord. En tout cas, parler comme ça, comme nous parlons aujourd'hui, c'est facile, mes amis. Vivre la guerre, c'est autre chose. En tout cas, pour moi, je me demande d'abord, on dit diriger, c'est prévenir. Est-ce qu'on n'a pas prévenu tout ce que nous vivons aujourd'hui? Si on n'a pas prévenu, faisons tout pour que les autorités nous écoutent et prévenir pour d'autres villes. Ne restons pas comme dans la distraction. Entre-temps, l'ennemi avance. Vous voyez déjà. En tout cas, ce n'est pas critiquer ni doiter quelqu'un. Nous sommes déjà un fait accompli. Vous voyez.
Merci beaucoup, Jérôme. On est devant un fait accompli.
S'il vous plaît, à mon avis,
oui.
Tout pour protéger les gens qui sont restés en vie dans la ville de Goma. Il y a ce qu'il y a. Ils vivent ce qu'ils vivent. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Pas seulement les sangs. Oui, on peut envoyer les sangs, même des sangs. Oui, on ne refuse pas. Il y a des besoins plus que les sangs. En tout cas, des grâces. Les autorités puissent nous écouter.
Merci, Jérôme. Oui, d'accord. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. Ismaël, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour.
Ismaël. Bonjour Jordi.
Oui.
Bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Ismaël, brièvement?
Ben, en fait, j'ai pas l'intérêt que quelqu'un de corps soignant.
Oui.
Sinon, c'est étonnant. Bon, monsieur Anissé, nous avons que la MONUSCO avait un mandat de la protection du civil. Maintenant, de ce qui s'est passé. La responsabilité de la protection de la société civile incombe à l'État qui est maintenant mis hors contrôle de la ville ou de la MONUSCO ou de la société ou des communautés internationales. Parce que maintenant c'est compliqué. On ne peut pas avoir qui peut avoir la responsabilité de gérer un peu cette catastrophe. Vous vous imaginez s'il s'agissait du vaccin? C'est compliqué parce que les organismes qui fournissent un peu de vaccins, ils ne peuvent pas avoir l'accès. Ils viendront au compte du gouvernement ou de rebelles. Là, ils vont s'abstenir. Parlons un peu des morts, des cadavres par-ci, par-là. Mais ces gens qui tuent les autres, là, ils vont régner sur quoi? Si vous faites un peu 3000 ou 2000 personnes qui sont tuées, et ceux qui sont dans des hôpitaux, bon, d'autres vont s'y combattre leurs blessures. Bon, je pense que actuellement, ce n'est pas la responsabilité que le gouvernement doit prendre en charge, plutôt que la communauté internationale qui doit se mobiliser, nous montrer l'amour réellement que là-bas, il y a une catastrophe provoquée par la guerre qui nous a été imposée par le pays voisin, le Rwanda.
Bien.
Et quels sont les dispositifs hygiéniques qu'on peut instaurer temporairement? Parce que c'est... Sinon, on risque un peu d'engendrer beaucoup de morts. Merci.
Merci. Vous parlez de la communauté internationale. Bon, on entend tous les jours que cette communauté est indifférente par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans la partie est particulièrement. Professeur Choukou, Nicolas, on est en train de conclure, on chutait déjà par rapport à dans cette première partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'environnement, vous intervenez depuis le Canada. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ou gérer les effets néfastes de cette guerre sur l'environnement?
Vous poserez, c'est deux choses.
Oui.
Faire le dialogue, négocier, impliquer la diplomatie. Et il faudrait implication de tous les Congolais à tous les niveaux, la médiation nationale pour faciliter des accords de paix entre belligérants, parce que l'homme est au centre de l'environnement, l'homme est au centre de l'écosystème. cet homme qui au centre est en train de mourir. Alors il faut vraiment chercher à stopper la guerre. Il faut impliquer certaines organisations internationales, je vous dirais pas tellement, parce que ce sont eux qui sont en train de, qui sont derrière le Rwanda pour que le Rwanda nous attaque. Mais il faut trouver un accord de cesser le feu. Mais dans l'entretemps, il faut protéger ce qui reste. Renforcer l'armement par l'État congolais, chercher à assainir les milliers. Ben, c'est vraiment la favorisation de la réconciliation nationale et le dialogue avec le groupe armé, c'est tout à fait important. Mais le groupe armé, il faut distinguer est-ce que c'est des Congolais ou c'est des gens de l'extérieur. Il faut négocier avec des Congolais et pour trouver la paix dans notre pays. Et, mais aussi renforcer la diplomatie. Hein. La diplomatie s'avère très, très, très important. Moi, si c'était moi, il fallait maintenant commencer à arrêter certaines coopérations avec avec des belligérants, avec des gens qui nous qui menacent la RDC. Il faut un dialogue franc. Les Congolais, j'ai toujours dit, on est habitué à rester autour de l'arbre et pour l'arbre de la palabre pour trouver nos solutions. Nos aïeux ont trouvé la solution autour de l'arbre et ils ont trouvé des solutions même graves et ils trouvent des solutions pour la paix. Goma est en difficulté, l'environnement est du milieu et les écosystèmes de l'Est est perturbé. Moi, je crois qu'il faut négocier pour arrêter cette guerre.
Merci, professeur Nicolas Soukou. Vous êtes docteur en sciences de l'environnement, intervenant depuis le Canada. Bon, excellente journée et à la prochaine. On va conclure avec docteur Anissé, qui passe à Expérience Santé Publique depuis la ville d'Ekikwit. Docteur Anissé, alors, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure par rapport au risque sur le plan sanitaire de cette guerre à l'Est?
Merci, Jody. Moi, je ne prends pas l'approche politique. Moi, j'agis comme expert en santé publique. Je suis devant un fait. Il y a eu une catastrophe artificielle. Je dois prendre soin des victimes et prévenir le risque des séquelles. Comme on a dit sur le plan de la psychose communautaire, les gens qui ont vécu la guerre, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, il faudra chercher à faire une réinsertion sociale dans les jours qui viennent. Mais actuellement, on a besoin de redynamiser ou de réorganiser ou de revivifier ou d'augmenter la capacité de la cellule des urgences de la division provinciale de Goma et au besoin faire appel à d'autres confrères ou à d'autres experts. Ce ne sont pas les experts qui manquent dans notre pays pour voir. C'est vrai, il y a l'effet de la guerre. Nous sommes dans la période immédiate d'après-guerre, disons à Goma. Donc, on a besoin de prendre en charge les effets néfastes, le risque, le péril, et comment éviter les risques de choléra, de d'autres épidémies en cette période. Rétablir l'eau et l'assainissement dans Goma et autour de Goma. Laisser aux politiciens de faire ce qu'ils peuvent faire avec le dialogue, tout ça. Mais nous, en tant qu'experts, et aussi sur le plan communicationnel, merci à Okapi Service, parce que l'information, la vraie information pour savoir, en ce moment, par exemple, pour dire aux gens, je m'excuse, en cette période, juste l'après-guerre, je suis sûr que les soins de santé à Goma et autour de Goma doivent être gratuits, surtout les gens qui sont victimes de la guerre.
Merci, docteur Anissé. D'accord. Merci beaucoup, docteur Anissé, expert en santé publique, intervenant depuis Kikwit. À la prochaine.